Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Et merci parce que Seigneur, marcher d'une façon victorieuse ne se passe pas par hasard. Mais Père, tu veux que nous apprenions des principes de ta parole. Afin que nous puissions marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que Seigneur, tu appelles ton peuple à être un peuple qui marche dans la victoire, qui sait remporter des victoires afin de te glorifier. Merci Père Céleste. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen.
Amen.
Aujourd'hui nous allons parler victoire et nous allons voir un personnage biblique que vous connaissez très bien. On va parler de Josué. J'ai vraiment à cœur de partager quelques pensées sur la vie de Josué pour vous aider à comprendre un certain nombre de principes bibliques qui ont permis à cet homme de conquérir. S'il y a bien un personnage qu'on peut voir comme un conquérant dans la Bible, c'est Josué. Et vous savez, dans notre vie spirituelle, il y a des temps de conquête. Il y a des temps vraiment de bagarre, mais la bagarre doit nous amener à la conquête. Et la conquête doit nous amener dans un repos. Il y a des sommets que tu dois atteindre. Il y a des choses devant lesquelles qui te sont promises soit dans la Bible ou que Dieu t'a promises personnellement. Et certains, vous êtes sous pression comme ça parce que ça fait des années et des années et des années que ça ne se produit pas et vous aimeriez que ça se produise. Il doit y avoir des percées dans votre vie.
Voyez,
il y a des moments où on est là, on fait ce qu'on doit faire. Mais il y a un moment où le barrage doit s'écrouler. La forteresse doit tomber. Notre Jéricho doit être pris. Il y a des moments comme ça dans notre vie. Il y a des moments qui doivent être marqués dans ta vie par ce genre de victoire. Dans la vie spirituelle, il y a la bénédiction qui coule et ça augmente jour après jour, jour après jour. Selon les principes bibliques, selon ce qui nous appartient en Christ, mais aussi ta vie spirituelle doit être parsemée de victoires. Des moments où il y a un accomplissement qui est réalisé. Quelque chose de spécial que tu vois s'accomplir. Évidemment, c'est dans le domaine du miracle. Qu'est-ce qui a fait que Josué ait été un homme de victoire? Eh bien, nous allons voir des caractéristiques de cela. Dans le livre de Josué, il y a beaucoup d'enseignements à propos de sa vie. Parce que parfois, il y a des situations qui nous paraissent impossibles. Et devant lesquelles aussi, on s'énerve. Il faut dire ce qui est. Ça
ne
vous est jamais arrivé de vous énerver contre une situation qui ne veut pas bouger?
kirarengana.
Un moment difficile dans votre vie où vous êtes tellement sous pression que vous souffrez. Rien ne se produit. Et vous dites, Seigneur, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes confus. Vous êtes sous pression. Et quand vous êtes sous pression et que vous n'avez pas les bonnes fondations, écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Quand vous êtes sous pression dans une situation et que vous n'avez pas les bonnes fondations, vous êtes vulnérable. Ça veut dire qu'il peut se passer des choses extrêmement mauvaises dans votre vie. Parce que vous n'avez pas les défenses immunitaires divine. Et alors, vous risquez de faire les mauvais choix. De prendre les mauvaises directions. Et c'est ce qui se passe souvent quand nous sommes sous pression. Et je vois des fois des gens qui marchent avec le Seigneur, mais qui ont tellement envie de voir les choses que Dieu leur a promis se réaliser du jour au lendemain. Que cela crée une pression gigantesque dans leur vie. Et je vous garantis, si vous n'avez pas ces bonnes fondations, et Josué en avait, on va voir cela. À ce moment-là, ces gens-là deviennent vulnérables. Soit ils sombrent complètement dans le péché rétrograde, soit ils se font détourner par quelqu'un qui les rencontre, qui leur donne une parole. Et quelques mois plus tard, quelques années plus tard, vous les voyez, ils sont complètement refroidis dans des choses qui sont complètement fausses. Sous pression, si nous n'avons pas les bonnes fondations, nous sommes vulnérables. Quelles étaient les bonnes fondations, Josué? Parce que cet homme a réussi à amener le peuple d'Israël à prendre possession de son héritage. C'est lui qui a été le leader que Dieu a utilisé, qui a permis à Israël de vivre une vie du désert vers le pays promis. Donc il a amené une transformation dans la vie de tout un peuple. Qu'est-ce qui a fait que cet homme a réussi? Complètement réussi. Ce que Moïse n'a pas pu faire. Parce que Moïse a su mener le peuple dans le désert. C'était l'homme le plus patient de la terre. Mais Moïse n'a pas été jusqu'au bout de la mission divine. Parce qu'il a fait des erreurs qui lui ont coûté. Entre autres, il avait frappé le rocher au lieu de lui parler. Et à grande onction, grande responsabilité quand vous faites des erreurs. Dieu voulait que Moïse fasse sortir le peuple d'Égypte. Passe par le désert, c'était une étape incontournable. Et amène le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Ça, c'était la mission complète de Moïse. Cette mission n'a pas pu être réalisée. Elle n'a pas pu être réalisée parce que Moïse a fait des erreurs et Dieu a écourté sa destinée. Josué, lui, par contre, a amené ce peuple dans une conquête phénoménale, ultra rapide, et tous les ennemis ont été battus par Josué. Et Josué a amené le peuple dans son héritage. Qu'est-ce qui a fait que Josué a pu réussir comme ça?
Eh
bien, il y a plusieurs éléments qui sont importants et qui nous enseignent. Rappelez-vous que la parole est là pour nous instruire. Au chapitre 1, verset 1 de Josué, Dieu va dire un certain nombre de choses à Josué. On va lire du verset 1 d'abord jusqu'au verset 5. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donnerai aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Mose umusavye uhora amaze gupfa uhora habarira Yosua mwene Nuni umufasha wa Mose ati Mose umusavye wanje yapfuye none rero va hasi ujabukana aba bantu bose ugo ruzi Yorodani muje mu gihugu mbahaye mwebwe abisirayeli ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nkuko nabariye Mose uhereye mu bugaragwa no kuririya misozi ya Lebanoni ugashitsa ku ruzi runini arigo Efurate ugahitana igihugu cyose cy'abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba nigo ruzo urugabano rwanyu nta muntu numwe azoshobora guhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe sinzoguhemukira sinzoguta.
Quand on voit ces premiers versets,
iyo ubonye iyi mirongo ya mbere,
il y a un nom qui est mentionné constamment.
Hari izina rigaruka.
Moïse.
Mose.
Moïse.
Mose.
Moïse.
Mose.
En fait, Dieu lui dit,
mais majambo Imana iramubwira,
tu vois,
a turabona,
celui qui t'a formé, ton mentor est mort. Maintenant, tu vas prendre la suite. Et comme j'ai été avec ton mentor, je serai aussi avec toi.
Vous
voyez bien le verset 5 au milieu. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Une des grandes clés du succès de quelqu'un, c'est d'avoir une personne qui l'a formé. Dans la parole de Dieu, il y a ce principe de ce qu'on appelle du mentoring, c'est-à-dire de former des gens et d'engendrer des personnes. C'est un principe divin que l'on retrouve dans toute la société. Et rappelez-vous que la base de toute société, c'est la famille. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'il y ait des familles et donc les enfants soient mentorés par les parents? Pour qu'ils soient formés, qu'ils soient éduqués. Nous savons tous, et certains vous l'avez malheureusement subi, que quand un enfant grandit sans père et sans mère, ou sans père ou sans mère,
et
lui manque quelque chose. Ou quand l'adulte, donc le mentor, celui qui doit former l'enfant, n'est pas là, ne fait pas son rôle, s'il ne remplit pas son rôle correctement, il va y avoir une carence quelque part. Spirituellement, c'est la même chose. Il y en a certains qui veulent expérimenter leur percée dans leurs promesses. Et ils se séparent trop rapidement. Et cela crée beaucoup de problèmes dans leur vie. Il y a un principe d'engendrement, de formation, de reproduction, ce qu'on appelle. Dans la parole de Dieu. Ça marche dans le naturel, mais ça marche aussi dans le spirituel. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des appels et qui loupent complètement leurs appels et leurs destinées. Il y a des gens que je connais depuis 15 ans qui sont ici. C'est toujours les mêmes cycles de problèmes. Je discutais encore avec quelqu'un qui m'a approché il y a quelques jours, que je connais depuis des années, qui a toujours rêvé de remplir sa mission divine, qui a fait plusieurs églises, qui était sans église, qui s'est séparé n'importe comment, qui est maintenant à nouveau dans une église. Et la première chose qu'il va dire au pasteur, c'est dire: voilà pasteur, j'ai créé une association, j'ai un ministère, je vais faire ceci, je vais faire cela.
Et
il y a un manque d'intelligence et de compréhension divine. Vous savez combien de temps Josué était formé par Moïse? 40 ans. Il a accepté d'être sous son mentor pendant 40 ans. Qui pourrait accepter de sacrifier, entre guillemets, 40 ans de sa
vie?
Très peu d'entre nous, je crois. Parce que 40 ans, ça représente beaucoup. Mais il l'a fait. Et quand Dieu l'a oint, il est vraiment entré dans son ministère d'une façon merveilleuse. Je parlais avec un pasteur récemment qui ne vit pas ici. Et on discutait justement sur ce sujet-là. Lui-même avait commencé à faire cette erreur-là, mais il s'en est vraiment repenti. Et il s'est mis sous l'autorité d'un pasteur. Et on discutait sur ce sujet-là. Et il me disait: c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui veulent voir leur percée spirituelle, par exemple dans le ministère, et qui n'y arrivent pas, qui se trompent. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de désordre dans l'église de Dieu en général. Parce que les gens ne comprennent pas ce principe de mentoring. Ce principe où il y a un temps où tu t'assois et tu es formé. Tu apprends. Tu découvres. Tu es là et tu es celui qui va servir celui qui est plus grand que toi. Et quand tu ne le fais pas, tu te retrouves avec des problèmes. Donc, Josué, lui, il a été formé par Moïse. Moïse, d'abord, c'était un homme de foi. Et c'était un homme de conviction. Par qui es-tu entouré? Des incrédules? Des aventuriers? Des gens sans conviction qui font un pas et quand ça brûle un peu, ils font deux pas en arrière? Par qui est-ce que tu es entouré? Pose-toi la question. Josué était entouré par un homme qui était un homme de foi et de conviction. Moïse, même quand tout le peuple était contre lui, il ne remettait pas ses convictions en cause. C'est un homme puissant qui savait marcher dans les convictions. Donc un des succès de Josué, c'était d'avoir eu quelqu'un sous lequel il était mis. Vous savez, Josué, il n'a pas commencé en étant un ange. Vous allez voir, regardons ensemble dans Nombre 11. Il y a une petite histoire sur Josué qui était marrante d'ailleurs. Nombre 11, versets 24 à
30.
Josué avait un problème. Et c'est un des problèmes que, la Bible nous mentionne sur le caractère de Josué. Ça s'appelle la jalousie. Regardons ensemble, c'est tout à fait l'exemple ici. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée, parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Verset 26, il y eut deux hommes, regardez bien, un appelé Eldad et l'autre Médad. Ils étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, le Saint-Esprit. Ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Verset 27, un jeune garçon, regardez bien, un jeune garçon, courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Verset 28, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, mon Seigneur, c'est-à-dire il a dit à Moïse, Moïse, empêche-les. Verset 29, Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Verset 30, je crois, oui. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Tu peux juste lire les derniers versets, s'il te plaît, merci. Les derniers.
Mirongo yanyuma ibiri ngo Yosua mwene Nuni yabaye umufasha wa Mose uhere musore bwiwe arambara ati nubabuze mugenzi Mose arambaza ati nije ufitiye ishaka abavuga ngo ishaka canke ishari icoma abantu bose buhoraho bakaba bavugishwa nawe uhoraho akabashira ku impwe muyiwe Mose asubiraho bashagaje bo naba bakuru b'Israyeli.
Donc on voit ici l'attitude de Josué.
Ah turabona rero ingene Yosua yari ameze.
Empêche-les.
Ngo babuze mugenzi.
Moïse dit, hey, est-ce que tu es jaloux pour moi?
Tu crois
que je suis aussi petit que ça dans ce genre de situation? Moïse savait qui il était et il disait, tant mieux, plus ils sont spirituels, plus il y en a qui sont spirituels, mieux ça vaut pour nous. Plus le peuple est béni, plus nous serons bénis. Donc on voit par exemple, là, Josué avait un problème de caractère, un problème de jalousie. Il était exclusif pour Moïse. Donc Josué n'a pas forcément commencé en étant quelqu'un de parfait, loin de là. Non, par contre, il a été à l'école d'un immense serviteur de Dieu. Moïse. Et il a appris. Et quand il était prêt, alors Dieu lui a dit, mais comme j'étais avec Moïse, moi je vais être avec toi.
Pareil.
Et c'est là où Josué est devenu un grand conquérant. Il a commencé son ministère. Donc la première fondation, si vous voulez devenir quelqu'un qui savait conquérir vos territoires, c'est d'être formé, de rester sous quelqu'un. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a une vision. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dans des églises où il n'y a aucune vision. Où on prêche pas la foi. Et les gens se demandent pourquoi ils sont tout le temps dans la défaite. C'est normal. L'église est là pour nous inspirer. Le serviteur de Dieu doit être lui-même un visionnaire. Et il doit emmener le peuple de Dieu quelque part.
Il
ne doit pas rester là en train de tourner en rond en disant le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous bénir. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, c'est lui-même qui fuit. Non, nous devons marcher de victoire en victoire. Il y a des gens dans ta vie qui doivent t'inspirer. Qui doivent te défier quelque part. Cherche ces personnes-là. Tu vas les trouver. Et ça va t'aider. Quel que soit le domaine dans lequel tu es. Cherche des personnes qui sont brillantes. Arrête de te mettre avec les médiocres. Cherche des gens qui sont brillants et qui ont très bien réussi. Dans tous les domaines dans lesquels tu peux te placer. Parce qu'il y en a trop d'entre vous, vous êtes entourés de gens médiocres. Ce qui fait que vous ne progressez pas. Quand quelqu'un est élevé, c'est-à-dire est dans une mentalité d'excellence, c'est quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui construit quelque chose dans sa vie, ça vous provoque à vous identifier à cette personne. Et toi-même, si tu es très haut, tu dois être un papa ou une maman quelque part.
Nawe nimba utanguye kumva uri kuraduga ahantu urakwiye kwiga kurera abandi gufasha
abandi. En prenant sous ton aile quelqu'un qui a le à cœur de faire la même chose que toi.
Ukafata ugashira mwibaba ryawe ugomba kumera nkawe.
Et tu vas l'aider.
Ukamufasha.
Donc la première chose c'est que Josué avait un mentor. Il avait quelqu'un qui avait la foi et des convictions. Maintenant, la deuxième chose, c'est bien sûr la fondation de la parole. Et à partir du verset 6 du début de Josué,
chapitre 1, bien sûr,
eh bien, on voit que Dieu va lui faire des recommandations. Et nous ne cessons de le dire dans cette église. La vie de l'esprit ne peut pas passer au-dessus de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent que marcher avec ce qu'on appelle le prophétique. Et ils courent après des gens, serviteurs de Dieu ou serviteurs qui commencent à dévier, qui veulent ne donner que des paroles à tout le monde. Qui ne vivent que des choses spectaculaires. Et je parlais récemment avec un bon serviteur de Dieu qui lui-même a un côté vraiment très fortement onction, guérison, et quand il prie, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et il a une église qui n'est pas ici du tout, c'est dans un autre pays. Et il est arrivé à la conclusion, on en parlait récemment. Et il me disait, moi, je veux que mes gens, mon église, soient basés sur la parole. Je ne veux pas que les gens viennent parce que je prie pour eux et qu'il se passe des choses spectaculaires dans
leur
vie. Parce qu'il y avait des chrétiens qui lui reprochaient en disant, mais pasteur, pourquoi tu ne mets pas quand tu pries pour les gens, que les gens tombent partout, etc.
Toutes
les vidéos sur YouTube, etc.
Mais
il disait, non, moi je veux que les gens viennent dans mon église pour la parole.
Pas
parce qu'on prie pour eux et qu'ils sont saisis par la puissance de Dieu. Je veux qu'ils viennent d'abord pour la parole. Bien sûr, ils sont remplis, ils sont touchés par la puissance de Dieu, ils sont guéris. Mais ça ne doit pas être le but premier. Quand les gens commencent à courir parce qu'ils veulent des paroles,
ce
n'est pas une fondation, frères et sœurs. Le spectaculaire n'est pas une fondation. Le miraculeux n'est pas une fondation. Rappelez-vous que le peuple d'Israël était dans le désert et ils voyaient régulièrement le miraculeux, mais ils ont complètement échoué dans leur destinée. Le miraculeux n'est pas une garantie de réussir dans notre destinée. Par contre, la fondation de la parole est indispensable. Le miraculeux vient en plus de la fondation de la parole. Mais ce pasteur disait, moi je préfère mettre mes prédications plutôt que de mettre quand on est en train de prier pour les gens, parce que je ne veux pas que les gens viennent que pour ça. Parce qu'il s'est aperçu d'une chose, quand les gens commencent à venir simplement pour le spectaculaire, ils sont charnels, ils ne veulent que de ça. Et quand on leur enseigne la parole, ils n'en veulent plus. Parce que la parole n'est pas spectaculaire, mais elle est surnaturelle. Et parfois, les gens n'acceptent plus d'obéir à la parole de Dieu. Ils veulent simplement qu'on prie pour eux, et paf, 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 les choses doivent se passer. Le problème, c'est que ça ne les fonde pas dans le Seigneur. Ça ne les amène pas à grandir dans le Seigneur. Ça les amène simplement à vouloir vivre d'un miracle en miracle. Mais ça, ce n'est pas selon la parole. Le peuple d'Israël vivait comme ça et il n'avait aucune foi. Il refusait la parole. Et quand Dieu leur a demandé l'obéissance, ils ont été rebelles. Et qu'est-ce que ça a produit chez eux? Ils sont morts dans le désert dans leurs conditions. Ils ne sont jamais entrés dans le pays promis. Et ils ont été une part, je dis bien, ils ont été une part. Ils avaient une part de responsabilité dans le fait que Moïse ne soit jamais aussi rentré dans le pays promis. Ils ont eu même une incidence sur le serviteur de Dieu qui avait tant souffert pour eux. Donc, Dieu directement va mettre Moïse au parfum, entre guillemets, c'est-à-dire il va mettre les pendules à l'heure. Donc il va mettre Josué directement devant ses responsabilités. Parce qu'il savait que le peuple d'Israël vivait encore de la manne. Ils avaient encore la manne, ce miracle qui venait tous les jours, qui descendait du ciel. Ils savaient que leur père, parce que toute la génération venait de mourir, les 40 ans, dans le désert. Ils savaient que leur père et leur mère leur avaient raconté toutes sortes de miracles quand ils avaient traversé la mer Rouge, etc. Mais là, Dieu rappelle à Josué. Maintenant, si tu veux vraiment marcher dans la victoire, si tu veux amener ce peuple dans la possession de son héritage, alors tu vas faire ce que je vais te dire. Et il lui dit directement, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans ce que tu entreprendras. La loi, bien sûr, pour nous, on pourrait mettre la parole de Dieu. Donc vraiment, il lui dit, fais attention. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Verset 8, il va lui rappeler, il va lui dire à propos son attitude par rapport à la parole. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, imprègne-toi, sois vraiment rempli de cette pensée divine.
Donc
passe du temps, imprègne-toi, plonge-toi dans la parole. Et après, pour agir. Fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Tu dois être imprégné par cette parole pour agir fidèlement. Pour être prêt pour agir selon cette parole. Ne pas la remettre en question. Ne pas y être rebelle. Mais vouloir vraiment marcher selon cette parole. Si vous voulez des percées de victoire, il vous faut cette fondation. Parce que le piège qu'il y a chez beaucoup de chrétiens, quand ils se donnent au Seigneur, ils ont des gens qui prient pour eux. Et quand on sort de l'Égypte, entre guillemets, c'est-à-dire du monde, quand on traverse la mer Rouge, c'est le symbole de notre nouvelle naissance, eh bien on a besoin de miracles. Et c'est souvent ce qui se produit dans nos vies.
T'es
là, tu viens d'une vie de pécheur. Ta vie est détruite par le péché, ton péché. Tu donnes ta vie à Jésus. Et tu as besoin des premiers miracles. Et Dieu les fait. Il y a des gens qui prient pour toi. T'es malade, tu vas guérir. T'as un problème et t'as besoin d'une provision spéciale, Dieu va le faire.
Etc. Il se passe
des choses. Rapidement, les premiers mois, voire la première année, voire les deux premières années où on se donne au Seigneur.
Il y a
un certain nombre de choses que Dieu fait qui sont très spectaculaires et on dit waouh, le Seigneur a fait ça pour moi, il m'a sorti de tout ça. Ça c'est bien, mais tu ne peux pas vivre de ça. Il va falloir que tu connaisses la parole. Il va falloir que tu sois instruit dans la parole. Il va falloir que tu changes ta mentalité. Il va falloir que tu acquières la mentalité divine. Et que cette parole mette la vie dans tes situations. Sinon tu seras déçu. Sinon tu auras des difficultés au bout d'un moment. Tu vas te retrouver comme beaucoup de chrétiens
qui
avaient bien démarré, qui étaient brûlants pour le Seigneur, mais qui est resté bébé spirituel, qui n'a pas grandi dans le Seigneur, et après tes problèmes ne sont pas résolus. Alors tu commences à prier et tu pries et tu pries. Mais il y a des choses dans lesquelles tu souffres. Il y a des choses que tu voudrais voir accomplir dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur t'a montrées clairement à toi personnellement. Ou des choses qui t'ont été confirmées parce que tu as reçu la parole du Seigneur. Ou alors tu rencontres un frère ou une sœur. Tu vois la dimension dans laquelle il commence à vivre dans certains domaines de sa vie. Et tu dis, mais moi j'aimerais bien vivre ça. Mais toi dans ta mentalité, il faut que quelqu'un prie pour toi et d'un seul coup pouf, tout va changer et ça marche pas. Alors le temps commence à t'ennuyer, le temps qui passe, parce que tu pries et rien ne se produit. Des fois il y a des trucs qui paraissent se produire et c'est pas ça, et là ça crée une frustration dans ta vie. Tu es là et tu es frustré. Pourquoi tu es frustré? Parce que tu as prié par rapport à ça. Il y a des fois tu avais l'impression que tout se mettait en place et que Dieu était en train de le faire, et à la dernière minute ça te passe sous le nez, et là tu es encore plus frustré. Tu es encore plus frustré. Tu te retrouves dans une situation où il y a des pressions. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand il y a des pressions et que nous n'avons pas les bonnes fondations, nous sommes quoi ? Vulnérables. Ça veut dire que si l'ennemi commence à mettre des choses dans notre vie qui deviennent des tentations, ou alors des choix qu'on va faire parce qu'on n'en peut plus. On dit j'en peux plus, ouf, j'en peux vraiment plus. Il faut que ça se passe et en fait tu essayes de le produire. Mais ce n'est pas une percée divine. Et c'est là où tu vas prendre des décisions qui vont te coûter cher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de rester sur la parole et de proclamer la parole de Dieu. Et tu pars à faire n'importe quoi parce que tu n'en veux plus. C'est comme ça qu'on voit souvent des gens se marier avec des inconvertis. Et ils n'attendent pas la bonne personne. Ils ont prié depuis des années. Il ne se passe rien dans leur vie. Ils sont sous pression. La pression de l'âge, la pression du célibat. La pression de tout un tas de choses qu'ils voient. Et ils craquent. Et ils prennent une solution charnelle. C'est ce qui se passe aussi des fois au niveau des finances. Tu n'as pas compris les principes financiers divins. Tu
ne
veux même pas les écouter. Toi, ce que tu veux, c'est un miracle rapidement. Mais ça ne se produit pas. Tu n'as pas déclenché les mécanismes de ta prospérité. Et d'un seul coup, il y a une occasion qui se présente. Le problème, c'est qu'avec l'occasion, il faut rajouter la corruption. Et tu es sous pression. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sous pression,
Et
qu'il n'y a pas les fondations.
Nous
sommes quoi? Vulnérable. Vulnérable. Dis à ton voisin, quand tu as des pressions, dis-lui, quand tu as des pressions, que tu n'as pas les fondations, tu es vulnérable. Amen.
Amen.
C'est classique, ça.
Très
classique.
Sous
pression, quelqu'un qui n'a pas de bonne fondation, il dégage.
Et
c'est souvent le cas. La troisième qualité que, comment dire, Josué avait, c'est que c'était un homme de foi. Un homme de foi. Lorsque Dieu va lui parler, au verset 10, Josué va transmettre. Il va transmettre. Au verset 10, il va parler au peuple. Hein, Josué donne à cet ordre aux officiers du peuple. Et il va dire quelque chose un peu plus loin. Au verset 13, donc je passe un peu parce que on ne va pas tout lire. Verset 13, il dit, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Vous voyez, il fait toujours référence à qui? À celui qui l'a formé, à son exemple. Quand il vous a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos, et regardez bien, et vous a donné ce pays. Il vous a donné ce pays. C'était un homme de foi. Regardez verset 15 aussi. La même chose, il va parler comme si les choses sont accomplies. C'est la troisième qualité que Josué avait. Un homme de foi, mais ça, il ne l'a pas appris tout seul, entre guillemets. Rappelez-vous, il en a été inspiré par son mentor. Et je vous le rappelle, faites attention avec qui vous vous entourez. Beaucoup de chrétiens sont des incrédules. Des gens qui manquent de foi ou des gens qui ne cherchent que du spectaculaire. Et ces gens-là vous amèneront nulle part, je tiens à vous le dire. Et là, il est dit, jusqu'à ce que l'Éternel accorde du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays de votre Dieu, que votre Dieu leur donne, puis vous viendrez prendre possession du pays qui, regardez bien, qui est votre propriété. Ici, il y a deux mots dans ce verset qui sont importants, c'est le mot repos et le mot propriété. Quand tu veux marcher de victoire en victoire, tu dois comprendre que les choses t'appartiennent par la foi. Tu dois apprendre à fonctionner dans la foi. Quand tu veux fonctionner dans la victoire, tu dois fonctionner dans la foi. Il n'y a pas d'autre alternative. Trop de gens veulent posséder, entre guillemets, ce que Dieu leur a promis en violant les principes de la foi. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu dois apprendre à fonctionner dans la foi. Josué, pour lui, la terre lui était acquise. Les promesses lui appartenaient. C'était notre propriété. Le pays que l'Éternel nous a donné, mais pour l'instant, il ne le voyait pas encore. Il ne le voyait pas puisqu'ils n'étaient pas encore dedans. Il n'avait pas encore traversé le Jourdain. Et dans ce pays, il se rappelait que 40 ans plus tôt, quand ils l'ont exploré, ça avait très mal tourné. Parce que dans Nombre 14, c'était les 12 espions qui avaient été envoyés. Et quand les 12 espions sont revenus, il y en a 10 qui claquaient des dents et qui tremblaient de partout. Ils savaient qu'il y avait des villes fortes là-bas. Qu'il y avait des ennemis. Qu'il y avait des géants. Qu'il y avait toutes sortes d'oppositions. Mais Josué, lui, il savait une chose. C'est que c'était la propriété du peuple de Dieu. Si tu veux marcher dans la victoire, tu dois d'abord prendre les promesses de la parole de Dieu et les voir qu'elles t'appartiennent. Ça t'appartient. Tant que tu seras dans la prière en disant Seigneur, donne-moi ceci et donne-moi cela, et que tu demandes 50 000 fois au Seigneur, tu n'as pas appris à posséder. La foi possède les promesses de Dieu. La foi voit le résultat. Et ça, c'est une qualité que tu dois avoir. Si tu veux marcher dans la victoire, tu marches et tu vois toujours le résultat. Tu n'es pas quelqu'un qui dit « Bon, ben, je brille, et Dieu va le faire. Ça ira mieux de toute façon. » Ça, c'est gentil. Vous avez une belle expression en Kirundi. Mais attention. Ce n'est pas par hasard. La victoire ne se manifeste pas par hasard. La victoire est toute une mentalité. Mentalité par rapport à un exemple qui t'inspire. Mentalité de Dieu au travers de sa parole. Et savoir voir les choses à l'avance, le résultat à l'avance. Ces qualités, Josué les possédait. Il savait une chose, c'est que c'était leur territoire. Pourtant, quand Dieu lui parle ici, il n'était pas dans le pays de Canaan. Il n'était pas dans la possession de leur héritage. Ils étaient ni plus ni moins encore dans le désert. Mais ils savaient qu'il y avait un temps nouveau. Non pas que Dieu les avait fait attendre, c'était eux qui n'ont pas été prêts par incrédulité. Et sache une chose, la mentalité de la victoire n'est pas dans ceux qui disent
«
Oui, certainement, Dieu ne veut pas me le donner maintenant parce qu'il attend. » Donc moi, j'attends que Dieu vienne et qu'il agisse et qu'il fasse les choses. Non,
ce
n'est pas toi qui attends Dieu. C'est Dieu qui t'attend parce que tu n'es pas prêt. Parce qu'il ne voit pas en toi un terrain de quelqu'un qui a la foi. De quelqu'un qui est capable de s'emparer de ses promesses. Et de marcher dans ses promesses. Le problème que tu as, c'est que tu es toujours dans l'espérance que quelque chose un jour ira mieux. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme cela. Ça veut dire qu'ils vivent dans le désert. Et ils espèrent qu'un jour ils rentreront dans le Canaan. Et Dieu ne t'appelle pas à être comme ça. Si tu es dans le désert, tu dois déjà avoir la mentalité de Canaan. Tu dois déjà être tout ton être doit être prophétiquement déjà dans la réalisation des promesses. C'est ça la foi, c'est tout ton être. Tu te vois déjà dans la réalisation des promesses. Et ce que tu vois dans le surnaturel divin s'accomplira dans le naturel. C'est comme ça que la foi fonctionne. C'est pour ça que ici il lui dit est votre propriété. C'est votre propriété. Donc Josué va commencer à fonctionner. Ils vont passer le Jourdain. C'était la première étape. Ça s'est fait un miracle pur de Dieu. Donc Dieu va faire un pur miracle. C'est le passage du Jourdain. Quand Et ils vont se retrouver devant le premier défi. Leur premier défi, ben, c'est une ville fortifiée. Une ville qui va être imprenable dans le naturel. Et là, ils avaient tous les ingrédients pour commencer à vivre des percées. Tu ne vivras pas des percées dans le domaine spirituel. Si tu n'as pas compris les trois premiers principes. Le principe du mentoring, donc d'être formé suffisamment longtemps. Le principe de connaître et d'appliquer la parole de Dieu journellement dans ta vie. Le principe de fonctionner dans la foi, dans ton héritage en Christ. Tu ne verras pas de grande percée dans ta vie si tu ne marches pas déjà sur ces trois principes. Voyez, Josué fonctionnait déjà dans ces principes-là. C'était bien fondé en lui. Et c'est là où il va connaître percée sur percée sur percée. Il va marcher de victoire en victoire. Parce que sa vie était déjà fondée sur ces trois piliers. Donc quand il va y avoir l'histoire de Jéricho, il va fonctionner très simplement. Et il va voir sa percée. Il est là devant la ville. Et la Bible nous dit au chapitre 6 au verset 1, Jéricho était barré et barricadé, 6-1, à cause des Israélites. Jéricho était fermé et barricadé, ou barré littéralement et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et n'entrait. Parce que souvent nous parlons, vous savez, de conquérir le territoire. Alors il y a des chrétiens qui marchent autour des villes, ils marchent autour des voitures, ils marchent autour des jeunes filles.
Vous
voyez, ils prennent simplement, littéralement, les principes de l'Ancien Testament et ils marchent avec leurs pieds en disant « ça m'appartient au nom de Jésus ». Bon, alors ça, ne le faites jamais parce que ce n'est pas biblique dans le Nouveau. Si tu
t'empares
des promesses par la foi. Ce
ne
sont pas des territoires physiques. Mais bien sûr, ça nous enseigne ici. Et ils se retrouvent devant quelque chose d'imprenable. Il y a un temps pour les percées, le temps divin pour les percées. Mais tout ce que tu fais avant, ça va préparer ce temps divin. Tu ne peux pas emporter des victoires au-delà de ta foi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas dans les trois premiers principes que nous avons étudiés et ils veulent voir des Jéricho tomber. Un Jéricho, c'est ce qui est fermé, c'est ce qui est barricadé dans ta vie. Le truc qui est une forteresse dans ta vie et qui t'énerve vraiment, qu'il faut qu'il tombe dans ta vie. Le problème, c'est que tu veux le voir tomber, mais ça ne tombera pas parce que les trois premiers principes, tu ne les mets pas en marche. Apprends à travailler d'abord sur les principes. Et il y a un temps, il y a une heure que Dieu va faire sonner pour toi. Tant que les Israélites ne voulaient pas fonctionner correctement selon Dieu, ils
ne
pouvaient pas rentrer dans leur Canaan. C'est pour ça que la première génération n'est pas entrée. Ils étaient pour le spectaculaire, ils étaient charnels, ils étaient rebelles. Ils ne voulaient pas de Moïse, plusieurs fois ils l'ont dit. Ils
ne
voulaient pas obéir à Dieu et à sa parole. Et ils n'avaient aucune foi, ils ne pensaient toujours que quoi ? On était mieux en Égypte, on était mieux dans le monde. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans leur
canard.
Là, par contre, ils étaient disposés.
Ariko ngaha bari bageze ahantu
avec un leader qui fonctionnait sur ces principes et qui les a inspirés.
Bafite imitima yiteguye n'umurongozi akorera kuri aya
mategeko. Et là, ils étaient prêts pour leur percée.
Bari biteguye kwinjira muri iki kintu.
Et c'est ce qui s'est produit. Jéricho était une ville barrée, barricadée. Imprenable. Et Dieu va lui donner une parole d'encouragement à Josué. Il va lui dire au verset 2. Il dit, l'Éternel dit à Josué, vois. Vois au travers de mes yeux. Quand tu es proche d'une percée, Dieu va te donner de voir. Tu es là devant ton Jéricho. Ça, c'est le naturel. Mais Dieu dit, je vais te donner de voir. Vois, je livre. Voyez, je livre, présent. Entre tes mains, Jéricho et son roi, ses vaillants
soldats.
Juste toi, la seule chose que tu as à faire pour l'instant, regarde. Regarde avec mes yeux. Regarde avec mes yeux dans la foi. C'est fait. C'est fait. Pourtant, Jéricho était encore là. Devant le peuple d'Israël. Il voyait la ville de loin, fortifiée, barricadée. Mais Dieu lui dit, vois. Je livre tout ça entre tes mains. Je livre cela, cette ville entre tes mains. Le roi, tout le monde. C'est terminé. C'est fait. Et Dieu va leur donner des paroles. Il va leur expliquer. Il va leur dire, vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 cordes de bélier, devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor.
Ngo muze muzengu kichogisagara mwese abingabo. Mukizenguke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi 6 kandi abaherereza indwi baze bajana inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama bagende imbere y'isandugu maze ku munsi ugira indwi muze muzenguke ico gisagara ibihetangabo ndwi kandi abo baherereza baze bagende baravuza izo nzamba.
Lorsque Dieu va te donner de voir prophétiquement ton Jéricho par terre, il va toujours te dire de faire quelque chose. Pour que ça se produise. Il te dit, vois, c'est comme si c'était fait. Mais il va te donner quelque chose de spécifique à faire. Et là, tu dois faire attention. C'est pour ça que beaucoup n'expérimentent pas de percée dans leur vie. Parce qu'ils ne connaissent aucun principe sur la foi à la base. Ils ne sont pas habitués à développer une vie de foi. Et le jour où ils se retrouvent devant leur Jéricho, Dieu va leur donner de faire quelque chose et ils vont avoir peur. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit au peuple de tourner une fois par jour pendant 6 jours? Et le 7e jour, il devait tourner 7 fois. Je vais vous dire un grand secret. Je n'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je
ne
peux en donner aucune explication. Pourquoi est-ce que le prophète a donné une parole sans rencontrer Naaman le général? Il envoie son serviteur et dit, il faut qu'il se baigne 7 fois dans le Jourdain. Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à Pierre, jette du côté droit, je crois si mes souvenirs sont bons, le filet? Je n'en sais rien. Par contre, je sais une chose. C'est qu'à chaque fois que tu obéis à une parole spécifique au moment de ta percée, tu verras le miracle de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Ne demande pas à Dieu, Pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Pourquoi?
Si Dieu te
dit, va à cet endroit-là, à ce moment-là, vas-y. Si Dieu te dit, donne ça, ce montant spécifique à telle personne ou à l'église ou à qui que ce soit, fais-le. Tu ne sais pas pourquoi, mais lui, il sait. Il y a quelque chose qui va débloquer ta perception. Obéis simplement. Ne dis pas pourquoi. Les chrétiens qui n'arrêtent pas de poser des questions du pourquoi, ils n'aboutissent à rien. Il y a des gens parfois, ils demandent des explications sur des versets bibliques. Vous dites, mais où est-ce que vous allez chercher ça dans vos petites têtes?
Il vous donne
des explications des fois sur des trucs. Vous dites, mais waouh, vous avez fait un doctorat en super théologie alors.
Il
y a des choses, j'en sais rien.
Dieu
ne nous donne pas le pourquoi du comment du pourquoi. Il nous dit simplement, fais ce que je t'ai dit de faire. Tu le fais. Et ça se passe. Si tu veux continuer à avoir le pourquoi du comment du pourquoi, tu échoueras avec Dieu. Tu passeras à côté de toutes les percées que Dieu veut te donner. Apprends à obéir. Qu'est-ce que les Israélites ont fait pour conquérir la ville imprenable? Ils ont juste obéi à Dieu. Et le reste, ça a été le business de Dieu. Josué connaissait ce secret. Il a souvent pratiqué. Il a gardé les trois fondations qu'il avait. Il marchait sur les traces de son mentor. Il a appliqué la parole écrite régulièrement. Il a fonctionné dans la foi. Et à chaque fois qu'il s'est retrouvé devant un obstacle, il a fait ses erreurs. Tout le monde fait ses erreurs, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Par contre, la vie de Josué a été une vie de conquête. Si tu apprends à fonctionner comme Josué, tu vas apprendre à marcher de victoire en victoire. Et tu vas glorifier Dieu de plus en plus. Il faut que tu apprennes à faire ça. Arrête de dire à Dieu pourquoi. Si tu continues à le faire, déjà sur la parole écrite, il y a tellement de gens qui discutent la parole écrite.
Oui,
mais pourquoi la prière en langue? Moi, je
ne
comprends pas pourquoi ces gens ils font blablabla. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas. Mais pourquoi les gens ils tombent quand on prie pour eux? Moi, je ne comprends pas. On
ne
te demande pas de comprendre. Lis la parole. Il y a des choses que je ne comprends pas, moi non plus.
Vous
savez, des fois dans le ministère, on fait des choses et personnellement, il y a des choses. Je dirais, mais Seigneur, pourquoi tu as voulu ça comme ça?
Je
dis, Seigneur, tu dis, tu en fais, et puis c'est tout, le reste, ce n'est pas mon problème. Ta part à jouer, c'est l'obéissance. Laisse Dieu être Dieu dans ta situation. Laisse-le faire. Obéis simplement. Si Seigneur t'a demandé de faire quelque chose, fais-le, obéis, dit Seigneur, je ne comprends pas. Mais j'obéis. Il y en a certains, vous manquez vraiment. Pourtant, vous êtes fidèles au Seigneur. Mais vous manquez votre percée parce que vous n'obéissez pas à des choses que Dieu vous a dites. Apprends à obéir et arrête avec ta tête de vouloir faire les choses de Dieu. Apprends à obéir. Si Dieu te dit quelque chose de spécifique, fais-le, ne discute pas avec Dieu. Apprends à ne pas discuter avec Dieu. Et je t'assure, tu vas commencer à vivre des choses que tu n'imagines même pas. Apprends l'obéissance. Josué avait compris. Franchement, on voit des choses des fois dans la Bible, on se dit, mais pourquoi Dieu a demandé ça?
Je vous
dis, on ne sait pas. L'important, c'est voir comment Dieu agit. Ils ont fait 6 fois un tour. Et ils ont fait le dernier jour 7 tours. Ils ont obéi parfaitement à Dieu. Et ils ont crié. Et Dieu a fait le reste. Les murailles se sont écroulées. Et quand les murailles se sont écroulées, l'obstacle, tout ce qui paraissait impossible à l'homme était par terre. Et croyez-moi, ceux qui étaient dans les murailles, ils ont tremblé. C'est pas à toi de trembler devant tes circonstances. C'est à tes circonstances de trembler devant toi. Parce que tes circonstances voient que tu es déterminé à ce que ça va changer. Mais être quelqu'un de conquête n'est pas quelque chose qui se passe par hasard. Les 3 premiers principes sont fondamentaux. Et ensuite, tu dois voir le timing de Dieu devant tes percées. Et tu dois agir au bon moment. Dans une obéissance totale. Et le reste, c'est Dieu qui va le faire. Et c'est là où sa puissance descendra dans ta vie. Et
que
ta situation pour laquelle tu avais prié pendant 20 ans, ta forteresse s'écroule. Hier, je regardais quelque chose à la télévision. C'était un reportage comment ils font écrouler des vieux bâtiments là, aux États-Unis. Et ils mettent juste quelques petits explosifs bien, bien placés. Et vous voyez un grand bâtiment, 5, 6, 10 étages, qui fait comme ça. Avec des tout petits explosifs comme ça. Ils mettent des trous dans les colonnes là. Mais bien placés. Ça fait. Et d'un seul coup, vous voyez un immense bâtiment qui fait. Ça s'écroule. Et c'est ce que tu vas voir dans ton Jéricho qui est
écroulé.
Mais tu dois appliquer les principes. Les principes divins. Construis ta vie sur les 3 premiers piliers. Et tu vas voir que cela va favoriser le timing de Dieu pour tes percées. Parce que je te dis, Dieu ne peut pas te donner des percées si tu n'obéis pas à la base. Parce que le jour où il y a la percée qui va se produire, il a besoin de quelqu'un qui va obéir.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.